Mes chers amis, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter ce qui se passa à le jour de la Pentecôte. Les apôtres prient avec Marie. Tous les jours, Marie-Madeleine, Marthe ou d'autres saintes femmes leur apportent de quoi manger, car elles ont bien compris, elles aussi, qu'ils devaient rester là, tous ensemble, à attendre l'Esprit que Jésus leur avait promis. Les apôtres prient avec Marie. Ils sont de nouveau 12, car Matthias est venu les rejoindre. Les 12 apôtres et Marie, ou bien se taisent, ou bien ne parlent que de Jésus. Depuis 10 jours, les apôtres ont appris à écouter Marie, ou à se taire, à prier en silence, à méditer et à faire oraison, comme Jésus leur a appris. D'ailleurs, avec Marie présente au milieu d'eux, qu'auraient-ils pu faire d'autre que de se taire ou de l'écouter? En ce moment, les apôtres prient. Quand soudain se manifeste un grand bruit et un grand vent. Que se passe-t-il? Pourtant la salle du Cénacle est bien fermée, car les apôtres ont toujours peur des Juifs et de tous ces gens de la diaspora qui depuis la Pâque ont envahi Jérusalem. Le vent souffle toujours dans l'enceinte de la salle. Les apôtres se sont regroupés autour de Marie, qui ne semble pas du tout effrayée, mais sourit merveilleusement. Les apôtres regardent Marie, et l'étonnante lumière qui l'enveloppe, lumière puissante qui pourtant n'éblouit pas. Les apôtres baignent eux aussi dans l'étrange lumière. Ils se regardent et regardent Marie. La lumière paraît toute spirituelle, d'un autre monde, et pourtant on dirait une boule de feu, mais d'un feu qui ne brûle pas, n'embrasant que les cœurs et les esprits. Car le cœur des apôtres brûle de l'amour qu'ils ressentaient déjà quand Jésus était avec eux. Mais cet amour, aujourd'hui, éclaire leur intelligence. Soudain, ils comprennent tout ce que Jésus leur enseignait. Tout devient clair, lumineux. Vite, il faut sortir et annoncer à tout le peuple la bonne nouvelle de Jésus. Les actes des apôtres nous racontent tout ce qui se passa ensuite. Le premier jour, il y eut 3000 baptêmes. Les jours suivants, la parole des apôtres, en fait celle de Jésus, étaient toujours accueillis avec joie. Et la charité, l'union des cœurs, la générosité grandissaient dans la première société chrétienne. Mais en ce qui concerne l'Eucharistie, les actes sont presque muets. Au chapitre 2, versets 42 et suivants, il est juste dit « Ils persévéraient dans l'assiduité à l'enseignement des apôtres, l'union mutuelle et la fraction du pain ». Chaque jour, ils étaient d'un même cœur, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison et prenaient leur nourriture dans la joie et la simplicité de cœur, louant Dieu. Que conclure? Qu'ont fait les apôtres après la Pentecôte? Il semble que très rapidement, les baptisés se soient réunis fréquemment pour rompre le pain, donc pour assister à l'Eucharistie. Il n'y avait pas encore de liturgie. Mais ils priaient assidûment et rencontraient le Seigneur. Pourquoi ne rien dire de plus? Probablement parce que la chose était devenue tellement naturelle que les apôtres ne pensèrent pas utile d'entrer davantage dans les détails. Par contre, Paul, en contact avec les païens, dont la vie était loin d'être conforme à la loi de Dieu qui pourtant ne devrait jamais être détruite, Paul, constatant les déviations, les manques de charité ainsi que le manque de respect envers le corps du Seigneur, dut repartir de zéro et raconter en détail ce qui se passa le soir du jeudi saint. Ainsi, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 20 à 30, il écrit « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous célébrez, car à table, chacun commence par prendre son propre repas, en sorte que certains ont faim, tandis que d'autres se gorgent. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire un affront à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Que je vous loue? Oh non, je ne vous loue point en cela. » Et Paul dut insister « Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'alors il mange ce pain et boive cette coupe, car quiconque mange et boit sans discerner le corps du Christ, mange et boit sa propre condamnation. » Au moins, c'est clair. C'est clair pour nous, qui vivons de l'Eucharistie depuis 20 siècles. Mais pour les premiers chrétiens issus des milieux païens, ce l'était beaucoup moins. Et saint Paul, comme nous venons de le voir, dut intervenir à plusieurs reprises. Je me permettrai cependant une petite question. Saint Paul a écrit « Quiconque mange et boit sans discernement le corps du Seigneur mange et boit sa propre condamnation. » Les foules qui, actuellement, se précipitent pour aller communier, sont-elles en état de grâce? Un enseignement concernant la façon de recevoir l'Eucharistie ne devrait-il pas être donné et redonné aux fidèles qui ne savent plus ce qu'ils font ?